Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue aux Amateurs de sport, édition du samedi 21 octobre. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Belle journée. Avez-vous eu l'occasion d'en profiter à l'extérieur aujourd'hui ou peut-être êtes-vous encore à l'extérieur? Eh bien, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à 18h30. C'est une émission du samedi, mais bien chargée quand même. Évidemment, on va revenir sur cette 7e défaite de suite du Canadien de Montréal qui s'incline 6-2 face aux Ducks d'Anaheim. On aura la chance également de parler au collègue Jérémy Filosa demain. Vous savez, dernier match en carrière pour le capitaine Patrice Bernier. L'Impact affronte la Révolution de la Nouvelle-Angleterre pour le dernier duel de la saison. Notre collègue Jérémy Filosa sera là pour nous en parler. On parlera également avec, écoutez, un invité de marque, Gabriel Grégoire sera avec nous parce que demain, dans ce dernier duel à domicile pour les Alouettes qui affrontent les Tiger Cats à Hamilton, d'ailleurs, ça vous sera présenté sur l'ensemble du réseau Cogeco. On va honorer le 40e anniversaire de la Coupe Grey de 77, le Ice Bowl, vous en souviendrez, et Gabriel faisait partie de cette formation, sera avec nous un peu plus tard. Mais pour l'instant, ce qui occupe les réseaux sociaux, ce qui occupe l'ensemble des partisans du Canadien de Montréal, c'est cette 7e défaite de suite. Hier, le Canadien qui s'incline 6-2 face aux Ducks d'Anaheim. Et là, on s'est dit, OK, situation qui est grave, on doit appeler les experts. Philippe Quentin est avec nous. Salut, Philippe.
Salut, Jérémy.
Philippe, qu'est-ce qui se passe avec le Canadien?
Mauvaise évaluation de l'équipe, mauvais été pour Marc Bergevin et sa garde rapprochée, et ça donne les résultats que l'on voit. Ce qui est le plus étonnant dans tout ça, Jérémy, c'est de voir justement ce groupe de gens de hockey qui ont étudié tout ça. Ils ont étudié, j'imagine, la direction que prenait la Ligue nationale, les équipes dans leur division, quelles étaient les forces, les faiblesses de chacune d'elles, puis comment on pouvait faire en sorte que le Canadien puisse lutter et s'imposer dans cette division-là. Et on voit que les résultats sont vraiment pas au rendez-vous. Des acquisitions malheureuses qui donnent aucun résultat. Mark Streit, Joe Morrow, Alex Emski, c'est véritablement une catastrophe quand tu réussis pas du tout à t'améliorer pendant l'été et en fait que tu t'affaiblis parce que t'as laissé partir des joueurs qui finalement étaient probablement meilleurs que ceux que tu as obtenus. Puis en plus, tu laisses partir un des rares éléments physiques que tu avais à la défense, Alexis Méline. Et aujourd'hui, on le voit avec le Canadien, c'est extrêmement difficile pour Carey Price qui, lui, semble avoir perdu tous ses repères.
Mais Philippe, ce qui est plus dommageable dans cette situation-là, en plus, c'est que Marc Bergevin a été un brin arrogant en disant devant tous et chacun que sa défensive était meilleure que l'an passé. Ouais. Et là, ça lui saute en plein visage.
Tout à fait. Et ça, c'est une fâcheuse habitude qu'a la direction du Canadien. Et c'est on dirait qu'ils ne sont pas capables de regarder la réalité en face. Et moi, je vais revenir sur la conférence de presse bilan de saison au mois d'avril dernier, après l'élimination assez rapide quand même contre les Rangers de New York. Et d'autres équipes de qui on attendait de meilleurs résultats en série l'an dernier ont aussi été éliminées en première ronde. Je pense notamment aux Blackhawks de Chicago qui ont été éliminés, là, balayés par les Prédateurs de Nashville. Alors, comment les Blackhawks ont réagi? Leur président est allé sur la place publique puis il a dit « c'est inacceptable comme résultat. Il faut qu'on revoie toutes nos façons de faire. On ne peut pas se permettre d'être éliminé comme ça en première ronde. On a une meilleure équipe que ça. Il faut faire en sorte que de trouver les solutions. » Et moi, je trouve ça inadmissible. Ça, donc, c'est la réaction des Blackhawks de Chicago. Au même moment, le Canadien, réagissant à une situation semblable, a dit « pas été vraiment chanceux. On a eu plus de chances de marquer que les Rangers de New York. » Donc, le message qu'il semblait envoyer, c'est « cette série-là, c'est un peu un hasard, notre défaite contre les Rangers. On aurait dû les battre. C'est seulement qu'on n'a pas été capable de marquer au moment opportun. » Alors, moi, je pense qu'il y a de l'aveuglement dans cette attitude de là, Jérémy, et que quand tu veux pas regarder la réalité en face, ça revient te hanter.
Attends, mais Philippe, je te coupe. Où il y a une trop grande connaissance de l'équipe? Et je m'explique. Chicago a les moyens de dire c'est inacceptable, on a un club pour aller plus loin. Quand tu connais vraiment ton club, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire on peut aller plus loin parce que il t'a manqué de punch à l'attaque, ben, et voilà. Radulov était là. Fait que tu peux pas aller plus loin si Radulov est pas là, même si tu ajoutes Jonathan Drouin.
Ben, c'est ça. Puis tu regardes justement la façon dont ces deux dossiers-là ont été menés. Aujourd'hui, je sais que le Canadien semble tout le temps mettre un peu la faute sur Radulov. Ah, c'est lui qui est parti pour Dallas, c'est lui qui a décidé. Le Canadien avait quand même la possibilité de signer Radulov depuis le 1er janvier dernier. C'est pas rien, là. Ils avaient une fenêtre exclusive de négociation de plusieurs et plusieurs mois. Bon, il paraît que les demandes de Radulov étaient exorbitantes et tout, mais il en reste pas moins qu'on aurait pu faire un effort, j'ai l'impression, pour le mettre sous contrat. Mais là, ça a été le plafond salarial. Ah, on peut pas, ce serait trop long, puis on va subir les dommages pendant trop longtemps si on lui accorde ce montant-là. Bon, OK, disons que pour un joueur, c'est comme ça. Mais quand tu fais ça aussi avec Markov, finalement, pourquoi Markov n'est pas de retour avec le Canadien? Là? Parce qu'on voulait pas lui donner une deuxième année, c'est ça le problème? Mais là, on n'a pas pensé aux conséquences dans la première année. Et là, pas de Markov, on le voit, l'équipe a énormément de misère en défensive. Alors, tu sais, ces négociations-là, on dirait qu'elles ont été menées d'abord et avant tout dans une perspective de protéger la structure salariale et la durée des contrats, ce qui est un bon principe, mais il faut que tu mettes également dans la balance le rendement à court terme sur la patinoire. Et là, c'est ce qu'on a, dirait qu'on a un peu oublié. Alors, les deux sont partis. Il n'y a pas eu ils sont disparus sans aucune contrepartie. Et pour le Canadien, les trous qui ont été ainsi causés dans la formation sont énormes. On le voit à l'heure actuelle.
Philippe, je regarde ce qui est le restant de la saison. Parce qu'il y a quand même 74 matchs à jouer pour le Canadien de Montréal. Et je faisais un petit calcul ce matin, et lorsque je regarde ça, on dit, OK, qu'est-ce que ça a comme conséquence d'avoir une séquence de 7 défaites de suite pour le Canadien? La conséquence, c'est qu'il reste 74 matchs, et si tu veux jouer pour 500, c'est-à-dire une victoire à chaque deux rencontres, au moins, ça te donne 37 victoires. L'an passé, pour se qualifier, la dernière équipe se qualifier pour les séries de fin de saison, ben, ça a été les Leafs de Toronto, ouais, qui, eux, ont eu 40 victoires. Ce que ça veut dire, t'es obligé de jouer au-dessus de la barre de 500, et ça pour le restant de l'année. C'est là la pression sur le Canadien.
C'est sûr. Écoute, les Maple Leafs, l'an dernier, terminent la saison avec 95 points. Le Canadien en a 3 à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 92 points dans les 74 derniers matchs. Réalises-tu le contrat pour une équipe contre le Canadien? Et surtout à l'intérieur de cette division-là, parce que gagner contre Tampa Bay, puis gagner contre les Maple Leafs de Toronto, là, on le sait, ça sera pas très, très facile. Alors, on peut très mal imaginer une série une très longue série de victoires qui viendrait un peu contrebalancer le très mauvais début de saison. Alors, il faut pas se le cacher, là, pour le Canadien, cette saison-là est tellement mal engagée que déjà l'atteinte des séries éliminatoires est un but peut-être pas encore irréaliste, mais qui est tellement complexifié maintenant, c'est tellement plus difficile d'atteindre les séries. Puis, tu sais, en plus, c'est que t'as pas grand-chose sur quoi bâtir, à mon avis. On va parler de la deuxième période du match hier. La deuxième période du match hier, moi, mon analyse, c'est que les Ducks d'Anaheim sentaient le match gagné après une période. Et ils ont complètement levé le pied en deuxième période avant de réaliser, oups, on a un match, on est mieux de réappuyer sur l'accélérateur. Puis quand ils ont réappuyé sur l'accélérateur, Jérémy, ça a pris 1 minute et 40 secondes pour marquer 3 buts, puis merci, bonsoir, c'était la fin des émissions. Alors, c'est pour moi la performance du Canadien hier, j'estime que c'est un peu un mirage, cette performance en deuxième période. Je pense que les Ducks qui déjà manquaient plusieurs excellents joueurs hier, dont Ryan Getzlaff, ont complètement dominé le Canadien dans cette rencontre-là, là où ça comptait vraiment.
OK, mais la suite des choses, parce que là, le peuple québécois, les partisans du Canadien, tout le monde réclame la tête de Marc Bergevin. On réclame des transactions, on réclame un paquet de choses, mais la morale de tout ça, c'est que, écoute, il n'y a pas sans option là,
non,
pour Marc Bergevin.
Il n'y en a pas beaucoup. Alors, allons-y d'abord avec les transactions. Bon, d'abord, on n'est pas du tout dans la période de l'année où il y a des transactions. Les transactions, ça commence à s'animer à peu près un mois avant la date limite des transactions, qui est à la fin février, début mars. Alors, on n'est pas là du tout. Et n'importe quelle équipe approchée par le Canadien à l'heure actuelle va les attendre de pied ferme, parce qu'on sait que le Canadien est dans le pétrin. Alors, il va avoir une prime à payer. Mais au-delà de ça, on n'est pas du tout dans une époque de transactions. Donc, je ne pense pas qu'à court terme, ce soit une solution. Alors, le 8 millions qui reste sous le plafond salarial, il ne sert à rien. Là, c'est un actif qui est là, mais qui, dans le moment, a zéro utilisation. Et quand on pourra peut-être l'utiliser, il va, en tout cas, de la manière dont c'est parti, je pense qu'on peut dire qu'il va probablement être trop tard pour avoir un impact dans cette saison-là. Alors ça, c'est pas une grosse opportunité. L'autre élément que tu mentionnes, le congédiement de Marc Bergevin, à ce moment-ci, je vois pas trop à quoi ça servirait, là, sauf peut-être à part à calmer un peu les gens, mais cette saison-là, un nouveau directeur général pourrait pas faire grand-chose non plus pour essayer de la relancer. Les choix qui ont été faits cet été, tu sais, tu te souviens d'avoir entendu comme moi Marc Bergevin dire, tu sais, c'est une été, une équipe, ça se bâtit pendant l'été.
Oui.
Et c'est ça, là. Et tu vis avec l'été. C'est pour ça qu'au début de notre conversation, j'ai parlé de l'été, parce que tout s'est joué cet été. Et là, réparer les pots cassés à l'heure actuelle, c'est presque impossible. Il faut attendre que le marché s'ouvre pour des transactions. Et les effets de ça, ça va être des effets pour la saison 2018-2019, pas la saison actuelle. Alors, dans le moment, le Canadien est dans un gros pétrin. On voit d'ailleurs que Claude Julien semble déjà à court de solutions. J'écoute ses commentaires après les matchs, après les entraînements, et même hier, il a dit qu'il ne comprenait plus, il n'y avait pas d'explication. J'imagine que Bergevin doit tenir le même discours. Alors, tu sais, moi, je jasais avec Jeff Molson cette semaine dans une occasion publique, là, où il dévoilait un projet de développement immobilier.
On s'est rencontrés pour constater comment le Canadien, ça allait bien quand même. Quand tu es rendu une troisième tour, là, on est en business. Là.
C'est ça, mais ça ne va pas très bien. Tout le reste va bien chez le Canadien, sauf l'équipe de hockey. Mais c'est ça le problème. T'sais. Le groupe CH lui-même, ça performe bien, mais l'équipe de hockey a tellement de problèmes. Mais tu sais, je parlais avec Jeff Molson, et puis lui, tu sais, disait, écoutez, on va attendre 60 matchs. Attendons 60 matchs, puis on verra. Ben regarde, 60 matchs, je pense qu'il va être trop tard, là. Et ça, quand il a dit ça, il y avait un des trois matchs en Californie qui était joué. Depuis ce temps-là, ça a été deux autres défaites convaincantes. Alors moi, je serais curieux de savoir, tu sais, en fin de semaine, là, justement, Jeff Molson, qu'est-ce qu'il fait? Il va parler certainement avec Marc Bergevin. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour essayer de sauver cette saison-là? Parce que là, vraiment, c'est engagé de façon tellement catastrophique que c'est difficile de voir quelle pourrait être la bouée de sauvetage.
Mais Philippe, en terminant, imagine-toi si t'es Jeff Molson. Est-ce que tu laisses Marc Bergevin tenter de se sortir du pétrin en disloquant davantage ta formation pour aller chercher une transaction majeure, ou tu lui dis, Marc, sais-tu quoi? On va voir avec qu'est-ce qu'on a, parce que tu ne sais pas si tu vas poursuivre l'aventure avec Marc Bergevin la saison prochaine.
Ben, à mon avis, là, c'est la question de confiance. Est-ce que Jeff Molson a toujours confiance en Marc Bergevin? S'il a toujours confiance en lui, Jérémy, il ne peut pas commencer à lui mettre des limites. Il ne peut pas commencer à lui dire, non, là, tu ne feras pas de transaction, tu peux faire ci, mais tu ne peux pas faire ça. Écoute, Marc Bergevin, il est le vice-président d'une compagnie très importante. Quand tu es vice-président, tu dois avoir de l'autonomie pour exercer ton rôle. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Tu te rapportes au président, tu rends des comptes, mais il faut que la confiance soit là. La journée où la confiance n'est plus là, il y a seulement une façon de régler ça. C'est de dire, je vais changer le vice-président. Tu ne peux pas commencer à lui dire, écoute, j'ai moins confiance, donc ça, maintenant, tu ne toucheras plus à ça. Non, ça ne peut pas fonctionner. Encore moins, je pense, dans une équipe de hockey. Alors, moi, j'ai l'impression que pour l'instant, Jeff Molson, qui m'a encore répété à moi et à notre collègue Marc Defoy du journal, on était ensemble quand on a parlé à Jeff Molson, il nous a répété encore une fois que pour lui, ce qui était très important, et ça, c'est une déclaration de cette semaine, il a dit que c'était la stabilité et la continuité. Alors, on ne semblait pas du tout dans une perspective de changement à ce moment-là.
OK, stable et continuer dans une situation négative, ce n'est pas nécessairement la meilleure des choses.
Voilà. C'est que tout à coup, il faut réagir. Mais j'ai l'impression que même quand on lui a parlé, j'ai l'impression que même Jeff Molson ne pouvait pas imaginer que ce voyage-là se conclurait de cette façon-là, avec deux autres défaites retentissantes, que l'équipe reviendrait à Montréal, le moral dans les talons. Et quand tu regardes les deux prochain match, ça sera pas facile. Non. Contre la Floride mardi au Centre Bell, et après c'est les Kings
et les Rangers qui ont gagné d'ailleurs cet après-midi. Mais et Philippe, écoute, juste une dernière petite chose, là, puis on va se laisser après. Mais tu sais, j'ai validé, puis j'ai parlé à Martin McGuire ce matin, puis tu sais qu'il y a eu des meetings avant ce match-là contre les Ducks. Tout le monde s'est rencontré, les joueurs, le coach, le DG, tout le monde s'est parlé. Et après ces meetings-là, ce que ça a donné, c'est 3-0 après une première période pour les Ducks. Ouais, ça, c'est alarmant pour moi.
C'est très alarmant parce que ça veut dire qu'il y a un ressort là, qui est brisé à quelque part. Alors ça, c'est très alarmant parce que justement, quand tu commences à faire des meetings comme ça, que ça ne donne pas de résultats, bien là, tu fais quoi après? Là? D'autres meetings? Mais tu sais, ça n'a pas fonctionné.
Mais apparemment, tu vas jouer au hockey à un moment donné.
Oui, ça a déjà été fait sans beaucoup de succès, je pense.
Oui, c'est ça, ça n'a pas fonctionné. Philippe Quentin, toujours un plaisir de te parler. Merci d'avoir été
avec nous. Et vice-versa. Salut, Jérémy.
Merci, Philippe Quentin, qui nous parlait de cette séquence difficile pour le Canadien. 7e défaite de suite. Prochain match est mardi face aux Panthers de la Floride. Demain, dernier match de l'Impact. Dernier match du capitaine Patrice Bernier. Pour nous en parler, il sera à la description de ce match. Jérémy Filosa est avec nous.